bomba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci d'écouter la radio Inzamba Agathe Kakawe. Bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, la tranche des informations qui ont marqué cette semaine. À la présentation, vous êtes avec Josine Kazé.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bienvenue encore une fois. L'ancien administrateur et directeur général de Kilar Hospital, le docteur Christophe Sahabo, a été transféré ce jeudi de la prison centrale de Mimba à la prison de Ruigi. La veille, son avocate maître Sandra Naïdzeye et son frère Étienne Sahabo avaient été arrêtés et mis en prison centrale de Mimba après plus de 8 heures d'audition au parquet d'Oumoura. Entre-temps, le procureur général de la République s'est inscrit en faux contre les conclusions de la dernière assemblée générale des actionnaires de Kilar Hospital. Selon Sylvestre Nyandoui, les organisateurs de cette réunion n'en avaient pas les prérogatives. Il ajoute que le procès verbal de la rencontre renferme des mensonges. Il dit aussi que maître Sandra Naïdzeye a été arrêté dans cette logique. Il a déclaré l'après-midi de ce jeudi, on l'écoute.
L'enquête du ministère public a révélé que les auteurs de ce document avaient les objectifs suivants. 1. L'entrave de l'instruction du dossier RMP670-CN opposant le ministère public au docteur Sahab Christophe, poursuivi pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, ainsi que pour des infractions en rapport avec la constitution des sociétés, le fonctionnement des sociétés. 2. La déstabilisation du fonctionnement de l'hôpital Kira en entretenant la confusion au sein de ses partenaires sur les organes légaux de cet hôpital. Le ministère public étant un organe chargé de protéger les intérêts de la société, ne peut pas admettre que des individus puissent entraver impunément l'instruction d'un dossier judiciaire d'une part et le fonctionnement d'une structure d'intérêt public d'autre part. C'est pour cette raison que le parquet d'Oumoura a ouvert un dossier RMP 7142-CN dans lequel les auteurs de ce document sont poursuivis, certains d'entre eux ayant été placés sous mandat d'arrêt provisoire, dont un est un avocat répondant au nom de Sandra Naïdzeye, lequel a joué un rôle clé dans la confection de ce procès verbal fictif. À propos des poursuites contre ce dernier, le ministère public voudrait apporter une clarification afin de couper court à la désinformation et aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux selon lesquelles il a été arrêté parce qu'il défend le docteur Sahab Christophe poursuivi dans le dossier RMP 670-CN ci-cité. Nous voudrions rappeler qu'un avocat est avant tout un citoyen qui est soumis aux lois. Maître Sandra Naïdzeye et consorts sont poursuivis pour les faits infractionnels ci-haut relatés et non pour avoir assuré la défense du docteur Sahab Christophe.
Il y a eu violation du code de procédure pénale dans l'emprisonnement de l'avocate du docteur Sahab cité dans le dossier de Kilar Hospital. Cela transparaît dans une déclaration publiée ce vendredi par les avocats du docteur Sahab devant les juridictions internationales. Ils ont fait remarquer que la loi n'a pas été respectée depuis l'arrestation de l'avocate Sandra Naïdzeye et du frère du docteur Sahab. Maître Gustave Nyonzima, l'un de ses avocats, explique que contrairement aux propos du procureur général de la République ce jeudi, ces deux prévenus sont en prison parce qu'ils sont proches du docteur Christophe Sahab. Maître Gustave Nyonzima dit par ailleurs que le procureur général de la République a menti dans sa déclaration d'hier de ce jeudi. On l'écoute.
Et si l'on s'en tient au fond de l'affaire, hein, les frères, de prime abord, on a tiré la conclusion qu'il a. Le teneur du dit communiqué est in extenso identique à la plainte du 19 septembre 2022 de M. Charles Vendagijimana, autoproclamé président du conseil d'administration d'Okira Hospital. Le communiqué n'a fait que paraphraser la plainte du 19 septembre 2020 déposée donc par le président du conseil d'administration autoproclamé. Parmi les actionnaires d'Okira Hospitaux, dont la plainte argue qu'ils ont révélé lors de leurs auditions n'avoir pas participé à l'Assemblée générale du 8 septembre 2022 et avoir été contactés par téléphone pour apposer leur signature sur un procès verbal de cette Assemblée générale du 8 septembre 2022. Selon donc ce communiqué, laquelle Assemblée n'a pas eu lieu, il y a lieu de préciser qu'il n'y a que trois actionnaires qui se sont désistés suite aux menaces, contraintes, force et pression orchestrée par le Service national de renseignement. Deux de ces trois actionnaires dont parle le communiqué se trouvent au Burundi et l'autre se trouve à l'étranger et ce dernier est le frère de l'un de ces actionnaires qui se sont désistés. Étant à l'étranger, il a été convaincu par sa sœur de l'emboîter dans le pas afin de sauver sa peau. Suite aux menaces, contraintes, forces et pressions subies. Du point de vue de la loi, leur désistement n'affecte en rien la décision de la majorité absolue prise lors de l'Assemblée générale du 8 septembre 2022.
Et le Conseil de l'Ordre du barreau de Bujumbura constate également de graves violations des règles élémentaires de la procédure pénale dans l'arrestation et l'emprisonnement de l'avocate Sandra Ndayizeye. Ce Conseil demande la libération immédiate et inconditionnelle de Sandra Ndayizeye. Cette demande a été faite ce vendredi dans un point de presse. Écoutez plutôt Maître Salvatore Minani, secrétaire de ce Conseil Ordre des Avocats.
Sans aucune intention de s'opposer à la manifestation de la vérité dans cette affaire, le Conseil de l'Ordre s'est tout de même étonné de l'arrestation et la conduite à la prison centrale de Mimba de cet avocat qui était et reste pourtant disposé à coopérer avec la justice. Le même Conseil a jusqu'ici remarqué avec consternation de graves violations des règles élémentaires de procédure pénale. En effet, alors que Maître Sandra Ndayizeye ignorait qu'elle était poursuivie sur quoi que ce soit, on lui a présenté un mandat d'amener afin qu'elle comparaisse devant le magistrat instructeur le 27 septembre 2022. Il faut préciser qu'un tel mandat est généralement décerné contre une personne qui a refusé de comparaître, comme nous l'enseignent les dispositions des articles 116 et 396 du Code de procédure pénale, livre 2. Par ailleurs, pendant l'interrogatoire, Maître Sandra Ndayizeye n'a jamais été officiellement informé des charges qui pèsent contre elle. Il s'agit d'une situation qui constitue, une fois de plus, une grave violation du Code de procédure pénale en son article 138, dernier paragraphe, ainsi que l'article 9, paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui se lit comme suit. Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. Maître Sandra Ndayizeye, encore moins ses conseils, n'a pas vu au moment de son arrestation le titre de détention. Le Conseil de l'Ordre demande une libération immédiate et inconditionnelle de Maître Sandra Ndayizeye, qui comparaîtra étant libre en attendant l'issue définitive de cette affaire aujourd'hui en instruction.
Suivez les émissions de la radio Ndamba en direct sur le www.ndamba.org.
Les Burundais ne devraient pas trop s'attendre du procès prononcé par la Cour de la Communauté des États d'Afrique de l'Est sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, jugé inconstitutionnel. Le porte-parole du gouvernement burundais l'a déclaré au cours d'une conférence publique de ce vendredi. Prosper Ntarugwamiye a indiqué que le dit mandat a expiré avec l'an 2020 et que le concerné est déjà décédé. On écoute le porte-parole du gouvernement.
Ce procès n'aura pas beaucoup d'impact parce que le mandat qui faisait objet de conflits depuis 2015 jusqu'à 2020 a déjà expiré. Même celui qui était concerné par son mandat, Dieu a décidé autrement. Il n'est plus. C'est ce qu'on appelle sans objet. Il n'y a plus de raison de ce procès. C'est devenu le fait. En deuxième lieu, vous demandez le sort des gens qui ont été arrêtés. Je voudrais vous rappeler que ces gens-là qui ont tenté le putsch l'ont fait contre un pouvoir légitime, un mandat qui va de 2010 à 2015. Et la loi burundaise réprime tous ceux qui veulent accéder au pouvoir par la force. Je voudrais lever cet équivoque. Ces gens-là ont voulu renverser les institutions légalement reconnues. Je crois que cela est clair, qu'on laisse la justice terminer ce qu'elle a déjà commencé et qui a atteint une étape satisfaisante. Il ne faut pas polémiquer sur les manifestations qui n'en est pas une. C'était plutôt des insurrections et les insurrections sont aussi réprimées par la loi.
Le porte-parole du gouvernement a négligé délibérément les lourdes conséquences occasionnées par le troisième mandat inconstitutionnel. C'est la réaction de Maître Dieudonné Bachelaïchidé, un des avocats de la défense, qui précise que le procès a été intenté contre l'État du Burundi et non contre le défunt président Pierre Nkurunziza. Le gouvernement devrait s'incliner devant la décision de la Cour de l'EAC et accepter de réhabiliter les victimes de ce troisième mandat illégal. Suivez Maître Dieudonné Bachelaïchidé.
Le minimum que le Burundi attendait, c'était un mea culpa, le représentant du gouvernement devrait se prosterner devant le peuple burundais qui a été malmené, qui a été meurtri par le régime pour demander pardon. Les Burundais s'attendaient à ce que le CNDD-FDD présente des excuses formelles à la population, aux défendeurs de la légalité constitutionnelle qui ont été tués, malmenés, exilés, expropriés illégalement, emprisonné illégalement. Par rapport maintenant aux prétendus arguments qu'il avance, le représentant du gouvernement ose dire voilà, le troisième mandat est fini, le dossier n'a plus d'objet. Pour parler d'un mandat, on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, on dit voilà, les 5 années sont terminées. Loin de là, il faut plutôt analyser les effets de ce troisième mandat. Le troisième mandat qui a été décidé par le parti au pouvoir, a causé de milliers de morts. Plus de 300 000 réfugiés sont encore à l'extérieur du Burundi. Parce qu'ils ont peur de revenir, ils ont été pourchassés. L'urgence était de voir comment revenir en arrière, comment rétablir la légalité et comment réhabiliter les gens qui ont été victimes de ce troisième mandat. Donc, plutôt que de retourner dans des guéguerres et dans une sorte de repli sur soi, le gouvernement avait intérêt à réconcilier le peuple burundais, à recoudre le tissu social burundais, en essayant de tirer les leçons de cet arrêt historique, loin des déclarations du représentant du gouvernement, qui dit que cet arrêt n'aura pas d'effet. Nous pensons plutôt que c'est un arrêt historique qui permettra au Burundi de revenir sur les rails de la paix, de la justice et de la démocratie.
Dernier dossier de cette rétrospective de l'actualité de la semaine, un officier de l'armée burundaise en détachement en République démocratique du Congo a été rapatrié la nuit de dimanche et mis aux arrêts au camp du bataillon de la police militaire. Il serait poursuivi pour des ordres qu'il aurait donnés et qui auraient causé beaucoup de pertes du côté des militaires burundais. Plus de détails avec Eddie Claude Ninina Hasgwe.
Cet officier en garde à vue au camp bataillon police militaire et du grade de major. Il faisait partie du contingent burundais en détachement de combat en République démocratique du Congo. Les informations que nous détenons de certains militaires indiquent qu'il a été manu militari rapatrié du Congo la nuit de dimanche à lundi pour dire qu'il vient de passer sa deuxième nuitée au cachot du bataillon police militaire. Les mêmes sources révèlent en outre que le convoi qui l'a rapatrié, cet officier a également rapatrié 8 blessés qui sont en train d'être soignés à l'hôpital militaire de Kamenge. Ces militaires ont été blessés lors des combats au Congo dans la province du sud de Kivu qui les ont opposés aux combattants du mouvement FNL d'Aloïse Nzabamema et du mouvement Red Tabara. Les militaires et miliciens Imbonerakure qui ont péri dans ces combats sont estimés à plus d'une dizaine selon toujours les mêmes sources. Des sources de la radio Inzamba parmi les militaires œuvrant dans le service des renseignements renseignement militaire G2 qui opère étroitement avec la police militaire indique que cet officier serait poursuivi parce que les ordres qu'il aurait donnés à ses subalternes auraient été à l'origine des pertes énormes qu'ils ont eues sur le terrain de combat. L'un de ces militaires s'inquiète d'autant plus que cet officier pourrait être victime de torture et plaide pour qu'il soit entendu pour l'auditorat militaire afin qu'il puisse se justifier sur toutes ces accusations. À la rédaction de la radio Inzamba, nous n'avons pas encore eu la version du colonel Floribert Viereke, porte-parole de l'armée, pour qu'il puisse apporter la lumière sur les révélations de ces militaires.
Merci Eddy-Claude Nininahazgwe pour toutes ces précisions. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Au revoir et à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.